Bonjour à toutes et à tous, il est 17h pile poil, nous sommes le mercredi 24 avril 2024, nous vous retrouvons en direct, toujours avec beaucoup de plaisir, 1h30 pour vous parler de livres, échanger avec les acteurs de la chaîne du livre, 1h30 jusqu'à 18h30 à écouter au fil des pages sur Radio Libertaire. Aujourd'hui, Frédéric, Ramon, Francis et notre invitée Sophie Boiret, pour parler de son livre, Joséphine Baker, cette militante féministe contre le racisme. Son livre est publié aux éditions du Palais. Frédéric, il y a une annonce de choc.
Exactement. Le colloque qui a lieu le 27 avril 2024 à l'Aéry, espace Aéry, c'est 50 rue Étienne Marcel, à Montreuil, dans le 93, c'est le métro Croix de Chavaux. C'est l'éducation autogestionnaire, coopérative et libertaire, divergence et convergence. L'accueil se fera à partir de 9h30 et la clôture sera vers 20h. Venez-y nombreuses et nombreux. Si vous voulez avoir quelques détails supplémentaires sur le contenu de ce colloque, vous pourrez le retrouver sur le blog du groupe Commune de Paris. Vous pourrez le chercher avec un moteur de recherche si vous ne l'avez pas encore. Commune de Paris, overblog.com. Je te repasse la parole.
Merci Frédéric. Alors, en plus de nous écouter, n'hésitez pas à nous écrire. Je rappelle notre adresse postale, Librairie Publico 145 rue Amelot, Paris 11e. Et là, on a reçu aujourd'hui de la part d'une amie qu'on a déjà reçue, qu'on va encore recevoir, Sandrine Malika Charlemagne, un livre d'un de ses amis. Et donc, cette librairie, vous pouvez nous écrire, vous pouvez déposer des mails aussi sur le blog du groupe Commune de Paris, dont Frédéric vient vous donner les références. Il suffit pour nous écrire de cliquer sur « Contact » sous la banderole dessinée par notre ami Tardy. Allons-y sur cette émission. Alors, malheureusement, nous allons commencer par un texte que je vais lire à la place d'Agnès. Vous savez qu'Agnès, c'est notre spécialiste catalogue exposition, dans une rubrique un catalogue, une expo. Malheureusement, elle est un peu fatiguée, comme on dit en ce moment. Je vous propose de vous promener en forêt avec Théodore Rousseau. C'est effectivement l'exposition au Petit Palais, Théodore Rousseau, la voix de la forêt, 1812-1867. Le catalogue était publié aux éditions Paris Musée 2024. Eh oui, Théodore Rousseau, c'est le peintre de la forêt de Fontainebleau et de Barbizon. Théodore Rousseau, il est né au moment des premières grandes découvertes techniques et scientifiques et de la première révolution industrielle. Enfin, une génération avant l'impressionnisme, quoi. Et de ce peintre paysagiste, il y eut précédemment une rétrospective au Louvre, il y a quelques années, et au musée d'art et d'histoire de Meudon dans les années 1970. Dès son enfance, Rousseau a beaucoup voyagé, la Franche-Comté, cher à Courbet, le Jura aussi, l'Auvergne, la Picardie, la Sologne, jusqu'en Pyrénées. Et à l'origine rebelle, il a toujours refusé de se soumettre à des œuvres et aux règles académiques, mythologiques ou bibliques, comme il était de rigueur à cette époque. Il fallait impérativement faire des représentations de la scène de la Bible ou des grandes scènes mythologiques. Son regard, lui, s'est porté sur le végétal et la défense de la forêt. C'est ainsi qu'il fut l'un des premiers à alerter sur la fragilité de l'écosystème. Il s'inspirera de peintres hollandais, anglais, de peintres du Nord, vous voyez, contemporains de son époque, comme aussi Constable. Il y eut une grande variété de styles dans ses œuvres, diversité de formats, de matières, de supports, et en peinture, il utilisera l'aquarelle, l'huile, en dessin, le fusain, la pierre noire, l'estampe. On retrouvera 1200 dessins de lui, tous émotionnellement très différents les uns des autres sur le plan technique. Et puis, une ligne de chemin de fer a été ouverte entre Paris et Fontainebleau, et de ce fait, il va souvent visiter la forêt avant de s'installer à Barbizon en 1847. Théodore Rousseau avait une connaissance intime des différents secteurs de la forêt. Il évoquait les arbres et il considérait que ceux-ci avaient une âme. Et le dessin de ce fait en était le portrait végétal. Du reste, les arbres avaient des noms pour beaucoup d'artistes de Barbizon. Le Rageur, peint par Corot, le Charlemagne, peint par Théodore Rousseau. Sans oublier Jean-François Millet, un fidèle ami de Rousseau, ou Narcisse Diaz de la Peña. Les peintres de Barbizon ont connu un succès pendant un temps avant d'être effacés par les impressionnistes. Et on peut qualifier Théodore Rousseau de grand refusé. En effet, après une période prospère, il souffrira pendant 13 ans d'un manque de reconnaissance officielle, de difficultés pour faire reconnaître son œuvre. Et c'est ainsi que ses défenseurs diront « oui, c'est le grand refusé des salons ». On suggère le côté non fini de ses toiles. Et puis Théodore Rousseau, ne se cachant de ses idées républicaines, dérange. Ah oui, dérange. Voilà. Il fréquente même le philosophe et théoricien du socialisme Pierre Leroux, Georges Sand, par l'intermédiaire de Théophile Thoré. Et après la révolution de 1848, justice est enfin faite à l'artiste, le nouveau ministre de l'Intérieur lui passe commande d'un paysage et les salons ne tardent plus à exposer ses œuvres. Il obtiendra même la Légion d'honneur, nul n'est parfait, en 1852. Il triomphe à l'exposition universelle de 1855. Et parmi les toiles les plus belles, selon Agnès, les plus célèbres et qu'elle a pu admirer en déambulant dans cette exposition, vraiment, je vous invite à aller la découvrir. Eh bien, nous avons l'allée des châtaigniers, une allée comme une route entourée de châtaigniers sombres qui laisse filtrer une douce lumière sur le sentier et sur le cavalier et la jeune fille en robe rouge qui passe. À noter que l'ensemble se présente dans une forme ovale, c'est assez intéressant car ça accentue la perspective. Une autre, une avenue de la forêt de l'Isle-Adam, un paysage forestier où des bergères surveillent un troupeau de vaches, le détail de la vie de la terre, les broussailles, les branches mortes, l'hommage à la terre-nature, là, tel que le souhaite Rousseau, mécontent des projets d'abattage et de rénovation des sites. C'est très moderne comme truc. Et une démarche écologique qui participera, bien entendu, au refus de ses œuvres à une certaine époque. Millet disait de lui, je cite, « Il est comme un capitaine sur sa dunette, il a l'air de faire son quart, il ne peint pas, il laisse ses chers arbres entrer lentement, profondément dans l'âme. » Enfin, Un tableau, le massacre des innocents. Là, c'est... Alors on pourrait dire, c'est le massacre des innocents, une scène biblique. Pas du tout, c'est un bosquet d'arbres dont beaucoup sont abattus par les bûcherons. Il a fait beaucoup de croquis et paradoxalement, il n'en terminera aucun. Enfin, une belle nouvelle. En 1861, un décret impérial instaurera une réserve naturelle artistique dans la forêt de Fontainebleau, plus de 1000 hectares pour les artistes et les touristes, depuis le temps que Théophile Thoré, comme Théophile Rousseau, défendait ce monument qu'est cette forêt. Cela ne rassurera pas pour autant l'artiste qui craignait le pavement de certaines allées, la construction de murets, bref, des petits conforts pour les touristes. Et effectivement, plus vous facilitez la circulation des touristes, eh bien, à certains endroits, ça finit même par être dangereux pour les rochers. Petite anecdote, c'est à cette époque que naissent les premiers chemins de randonnée. Ces chemins balisés de flèches bleues, c'est Denecourt qui leur donnera un nom. Il créera des fontaines, une tour d'observation, et la caverne des brigands, dont vous avez peut-être déjà entendu parler si vous êtes promené du côté des gorges d'Apremont, a été réalisée de toutes pièces. Il n'y a jamais eu de brigands dans cette caverne, puisque c'est Denecourt qui l'a fait aménager. Et puis, évidemment, Rousseau proteste contre ce type d'aménagement. Bref, vous trouverez une histoire de la forêt, une histoire du style de l'art de Théodore Rousseau, un très beau catalogue, une très belle exposition, un très beau catalogue, écrit par la conservatrice du musée d'Orsay, Servane d'Arguigny de Vitry, Michel Schulman, biographe, Édouard Kropp, conservateur, Chantal Georgel, historienne, notamment, et ce qui en accroît la richesse par la diversité des thèmes abordés. Ce n'est pas qu'une présentation des œuvres, c'est une approche globale. On voit l'histoire, on voit la sociologie, et évidemment on voit les œuvres. Hein. Je vous en rappelle. Alors l'exposition, quand même, soulignons-le, l'exposition est à voir jusqu'au 7 juillet 2024. Je vous en rappelle le titre, Exposition au Petit Palais, Théodore Rousseau, La Voix de la Forêt, 1812-1867. Et si vous voulez acquérir le catalogue, eh bien le catalogue est publié aux éditions Paris Musée. En attendant, promenons-nous avec Schumann et écoutons Scène de la Forêt, opus 82, numéro 9, interprété par David Cadouche. Frédéric, on y va ? deuxième temps de l'émission pour alimenter le débat. Pour alimenter le débat, eh bien, nous allons commencer par un livre sur Franco. Ramon, les publications sont nombreuses portant sur l'Espagne en ce moment, et particulièrement sur le dictateur Franco. Tu vas peut-être nous dire pourquoi on parle autant de Franco en ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé. La revue L'Histoire, par exemple, a publié un numéro spécial intitulé « L'Espagne de Franco, un pays broyé ». La sauvagerie des troupes franquistes nous est connue, et donc on pourrait dire, mais a-t-on jugé Franco ? Est-il protégé ? Voire peut-on le juger ? Alors Sophie Babi nous propose dans son livre « Juger Franco ?», point d'interrogation, publié aux éditions La Découverte, une approche. Et nous avons demandé à notre expert Ramon Pino, l'expert espagnol, d'analyser cet ouvrage. Il en rougit, mais on lui donne la parole. Alors Ramon, que se passe-t-il là ? Pourquoi parle-t-on autant de Franco ?
On parle beaucoup de Franco, et on va en parler encore, je pense, pendant toute l'année qui vient, parce qu'on est, on va arriver à 50 ans de sa mort. Mmh. Et 50 ans de sa mort, le livre de Sophie Babi, Juger Franco, comme tu as dit, avec un point d'interrogation, qui a son importance. Et ce qui a une importance aussi, c'est le sous-titre. Mmh. Impunité, réconciliation, mémoire. Alors, impunité, le régime franquiste est tranquille. Il y a impunité. Réconciliation, c'est mal parti. C'est mal parti pour une réconciliation. Mémoire, ça bouge un peu. C'est en cours. Mmh. Donc, peut-être que tout ça va se réunir. Et j'ai été pas mal intéressé par ce livre. J'ai quelques petites réserves personnelles, mais c'est quand même un travail énorme qu'a fait Sophie Babi. Hein. C'est un petit pavé de 370 pages, avec qui nous permet de nous y retrouver, parce que c'est quand même un peu compliqué, dans les méandres de la guerre d'Espagne, de la fin de la guerre d'Espagne, de l'exil et du combat mémoriel qui devient de plus en plus vif depuis 10-15 ans. Mmh. Alors, quand je dis j'ai quelques petites réserves, il y a notamment pas mal de notes dans ce livre. Il y a 40 pages de notes. Mmh. Moi, personnellement, j'aime bien quand les notes sont, quand c'est possible, soit en bas de page, soit à la fin du chapitre. Là, tout est réuni à la fin du livre. C'est un petit peu, je vais pas dire que ça m'a fatigué de repartir à la fin du livre à chaque fois, mais c'est, enfin, à mon avis, c'est moins pratique. Donc, 40 pages de notes, 7 pages de sources, alors c'est bien, on a au moins on sait d'où l'autrice a tiré ses renseignements. Une autre petite réserve, quand elle prend des archives, elle va dans les archives d'organisations qui ont été opposées à Franco. C'est surtout le Parti Socialiste Espagnol, mmh. et surtout le Parti PCE. Communiste Espagnol. Ouais, ouais. Le Parti Communiste d'Espagne, mmh. plus exactement. Mmh. Rarement les libertaires. Pourtant, il y a, mis à part l'Institut international d'Amsterdam, il y a en Espagne même, à Madrid, il y a la Fondation Anselmo Lorenzo qui numérise toutes les archives, tous les journaux libertaires parus en Espagne. Bon, c'est un petit regret.
Oui, c'est vrai, je l'avais constaté, moi aussi.
Il y a eu, il y a peut-être deux ou trois citations de personnalités anarchistes dans le livre, mais vraiment, au détour d'une phrase, c'était assez peu, à mon avis. Bon, pourquoi on parle de Franco? C'est que dès que la guerre n'était pas encore la guerre d'Espagne n'était pas encore terminée, dès les années 40, il y avait non pas l'ONU qui n'existait pas encore, mais son ancêtre, la Société des Nations, qui avait condamné le Franco et le putsch militaire franquiste. Assez rapidement, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'ONU qui va être créée, et l'ONU ne va pas condamner ce qui se passe en Espagne. Il y aura même en 1950 la création d'une commission. Le livre est truffé de sigles, hein, mais bon, il y a toujours les explications. Alors, c'était la CICRC, la Commission internationale contre le régime concentrationnaire antifasciste et antistalinien. Alors là, déjà, on voit qu'on est entré, dans la période de la guerre froide.
Oui.
Déjà, tous les partis de gauche qui hurlaient contre le fascisme, contre Franco, déjà, certains mettent un bémol. Comment peut-on mettre sur le même plan les régimes concentrationnaires nazis, franquistes et de l'URSS?
Ah oui.
Là, ça a coincé. Alors, rapidement, les républicains qui avaient perdu militairement la guerre d'Espagne, beaucoup se sont exilés majoritairement en France, et aussi en Amérique latine, mais surtout en France. Et en France, ils ne vont avoir de cesse de demander tout simplement justice. Quand, en même temps, Franco, lui, se vengeait en Espagne de tous les républicains qu'il pouvait faire prisonnier, il se vengeait de ces républicains qui avaient osé s'opposer à son putsch contre la République.
Et il les poursuivait même après sa victoire.
Ah ben oui.
Tout le temps.
Il y a eu quand même le moins qu'il y a eu beaucoup d'emprisonnés dans des camps. En Espagne, il y a eu surtout énormément de fusillés. C'était avoir appartenu à une organisation syndicale, pour Franco, c'était avoir du sang sur les mains.
Mm-hmm.
Donc il fallait les liquider. Les républicains réfugiés en France demandaient justice et réparation. Et un des généraux de Franco, de sinistre mémoire, Queipo de Llano, avait fait une déclaration pour dire que deux mots devaient disparaître du langage espagnol. C'était amnistie et grâce. Amnistie pour des groupes...
Et grâce individuelle.
Grâce individuelle. Mmh. Il fallait continuer, et ça a duré. Les 10 années qui ont suivi la fin de la guerre d'Espagne ont été assez, assez cruelles pour tous les prisonniers politiques en Espagne. À l'extérieur, évidemment, des associations se sont créées, comme la FEDIP, la Fédération Espagnole des Déportés et Internés Politiques, la Solidarité Démocratique Espagnole, qui émanait du Parti Socialiste, le Secours Rouge International, qui émanait du Parti Communiste, et SIS, Solidarité Internationale Antifasciste, qui était libertaire. Donc, il y avait des discours, des fois, il y avait des petites nuances qui sont relevées dans le livre. Mm-hmm. Par exemple, il y a une déclaration de Federica Montseny, dit, répondait à ceux
qui
demandaient... C'est
qui, déjà ? Qui est cette personne, déjà ?
C'était une éminente militante anarchiste qui a eu la particularité d'être entré au gouvernement.
D'être entré au gouvernement. D'accord.
Pendant les 8 premiers mois de la guerre.
Ah. Alors.
Alors, à ceux qui demandaient que Franco les amnistie, elle disait, mais Franco n'a aucun droit à nous amnistier, tout simplement parce que les coupables, c'est eux, les franquistes, c'est pas eux de nous amnistier, ce serait plutôt à nous les amnistier.
C'est pas faux.
Donc, on est arrivé, la dictature de Franco s'est exercée de façon très dure jusqu'à la fin, pratiquement, parce que dans les derniers mois avant sa mort, il continuait de faire exécuter des opposants. Il est donc mort le 20 novembre 1975 et s'est posé le problème de l'après-franquisme. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait ? Franco avait tout bien préparé quand même, puisqu'il a fait rétablir la monarchie en Espagne, mais une monarchie parlementaire. Donc il fallait des élections pour élire
le
gouvernement.
Le Parlement.
Voilà. Et là, s'est posé un autre problème. Il a fallu... il y a eu en 1977 une loi d'amnistie qui a été votée. Alors, loi d'amnistie, ça sonne bien comme ça, mais ça a été surtout une loi d'amnistie pour les franquistes. Hein. On ne peut plus... Cette loi est toujours en vigueur. Et à chaque fois que quelqu'un veut mettre en cause un héritier de politique du franquisme, il est considéré hors la loi parce qu'il s'attaque, il remet en cause cette loi. Alors ça avait été accepté parce que ça faisait déjà quelque temps que ça durait. Tous les partis d'opposition étaient en train de négocier leur légalisation. Et ça a été le deal. Hein.
Ça a été le deal. Légalisation contre amnistie.
Contre cette loi d'amnistie et le rétablissement de la monarchie. On en est toujours là. Donc, l'Espagne est devenue une
royauté parlementaire.
Voilà. Pas une république, une royauté, une monarchie parlementaire, un régime démocratique, même si on peut mettre parfois des guillemets, mais un régime démocratique, avec une alternance tantôt depuis 1977-78, on a eu un gouvernement de droite, puis de gauche, puis de droite, puis de gauche à nouveau. Donc, on peut parler de démocratie. Il y a quelque chose qui est relativement nouveau. En fait, c'est depuis 2 ans. Le gouvernement actuel espagnol, socialiste, a décrété que le 8 mai serait la journée de l'exil. On parlait parfois de la guerre, mais rarement de l'exil. Et donc, ils ont décrété que ça serait... Il y aurait une journée de l'exil le 8 mai. Pourquoi le 8 mai ? Parce qu'en même temps, dans toute l'Europe, on fête la fin de la guerre, la victoire sur le fascisme
et le nazisme.
Ce qui est un petit peu pervers quand même, ouais. Parce que ça met finalement... le gouvernement actuel espagnol s'approprie l'histoire des combattants républicains réfugiés en France qui, eux, avaient participé au combat avec les Alliés.
On peut conclure, parce que notre collègue est au téléphone. Oui.
Bon, donc, il y a cette journée de l'exil. Franco, jugé Franco, point d'interrogation, on a quand même sorti, il y a 3 ans, 4 ans, les cendres de... Le tombeau de Franco, de ce monument de merde là qui s'appelle le Valier de los Caídos, on l'a sorti pour l'amener dans un cimetière privé.
D'accord.
Donc, il y a tout un combat quand même d'associations mémorielles, et en Espagne, et en France aussi, pour remettre cette histoire.
Donc on n'est pas prêt de juger Franco.
On n'est pas prêt.
Mais en tout cas, il y a des débats.
On peut juger le franquisme.
D'accord. Très bien. Tu nous rappelles le titre de l'auteur, la maison d'édition.
Alors, le titre, c'est Juger Franco, point d'interrogation. C'est de Sophie Babi. Et c'est aux éditions La Découverte. Et évidemment, on va le trouver, je suppose, très, très bientôt, il doit y être.
Chez Publico.
À Publico,
c'est évident. Hein,
adresse bien connue de nos
145
auditeurs.
Rue Amelot.
Voilà.
Merci Ramon. Très bien, bonjour.
Bonjour.
Allô, Sophie Boiré.
Oui, bonjour Francis.
Dorian.
Vous m'entendez?
Allô?
Oui, moi je vous entends.
J'entends rien.
Allô, moi je vous entends.
Ah, voilà.
C'est bon.
Très bien. Bonjour. Donc, on a encore un problème technique. Donc c'est le deuxième temps de l'émission. Donc nous rencontrons Sophie Boiré pour son livre Joséphine Becker, donc cette militante féministe et contre le racisme. Et vous avez publié ce livre aux éditions du Palais. Alors, Sophie Boiré, vous avez travaillé comme directrice de la communication et des relations publiques pendant près de 10 ans dans le monde de l'édition, et aujourd'hui vous participez à certains ouvrages, aux relations presse-communication, aux éditions du Palais. Vous écrivez des livres sous une forme assez originale, puisque ce sont des citations et des illustrations. Alors, je schématise, bien sûr. Expliquez-nous votre approche.
Oui, effectivement, c'est une approche assez originale. Ce sont des petits recueils de citations illustrées, donc une iconographie très soignée, qui donne juste directement la parole aux personnes célèbres que nous sélectionnons. Que nous avons qualifié de géant, puisque la collection s'appelle Géant. Donc c'est un point de vue complètement différent de la biographie, puisque là, on ne passe pas par le prisme d'un biographe. On tend directement le micro, si je puis dire, pour reprendre une image radiophonique, aux personnages auxquels on s'intéresse, ce qui nous permet d'aller directement... de les entendre avec leurs mots, leurs émotions, et d'avoir un point de vue un peu plus direct sur ce qu'ils éprouvent par rapport au monde dans lequel ils vivent, à l'histoire qui les environne et à leur propre vie. Voilà. Donc il y a un choix thématique qui permet de tisser un fil rouge et de reconstruire leur biographie, si vous voulez.
Alors, pourquoi avoir choisi Joséphine Becker, qui est-elle?
Alors, Joséphine Becker, c'était... Alors, je dis Becker parce que la famille insiste, et elle aimait qu'on l'appelle Becker pour avoir une consonance française. Joséphine Becker, elle a un peu une histoire dans mon histoire, puisque moi, j'ai des origines de Dordogne, et donc j'ai très tôt entendu parler de cette dame qui a passé une partie de sa vie au château des Milandes. Et puis, quand elle est rentrée en Panthéon, ça a été un choc. Et puis, j'ai rencontré son fils un petit peu par hasard. Donc, tout ça, ça a été un cumul de circonstances qui ont fait que j'ai demandé à l'éditrice de me pencher sur sa vie. Et alors, qui est Joséphine Baker? Joséphine Baker, elle est américaine, elle est métisse, elle est née en 1906 à Saint-Louis, dans le Missouri, sous le nom de Frida Joséphine McDonald. Donc, sa maman est noire et son papa est blanc. Donc, elle a la double peine d'être noire chez les blancs et blanc chez les noirs. Et elle a une enfance très difficile, très malheureuse, mais c'est une femme qui a toujours eu une pugnacité incroyable. Et elle va très vite, elle a été mariée à l'âge de 13 ans par sa mère. Elle a très vite quitté ce premier mari. Très tôt, elle se met à chanter, à danser dans les rues. Et à 15 ans, elle quitte sa ville de Saint-Louis pour suivre une troupe d'artistes. C'est comme ça qu'elle va arriver à New York, où là, elle va arriver à l'époque où on fait les premières comédies musicales avec des personnes de couleur. Donc, c'est une aubaine pour elle. À 16 ans, elle arrive à monter sur les planches, enfin. C'est parce que c'est très compliqué à cause de son jeune âge. Et puis, elle va être remarquée par une Caroline Dudley Duncan, qui va être celle qui va faire basculer un petit peu sa vie, puisque c'est elle qui va lui proposer de partir en tournée à Paris pour la Revue Nègre.
Alors, elle a, donc là, elle fait aussi référence au racisme, et notamment en page 16 de votre livre, elle décrit une émeute en parlant de la peur de l'émeute. Évidemment, ça marque.
Bien sûr, il ne faut pas oublier que Joséphine Baker, elle est née dans le Missouri, qui n'est pas à proprement parler un État du Sud, mais où sont encore en vigueur les lois Jim Crow. C'est-à-dire que, en fait, aux États-Unis, dans les États du Sud, la ségrégation est légale jusqu'en 1964. Donc, elle vit dans un État où il existe une très grande violence vis-à-vis des gens de couleur. Effectivement, en 1917, elle va assister à une émeute où des gens vont être tués sous ses yeux. Donc ça va être un... Vous pouvez imaginer un choc incroyable et ça va faire que sa vie va un petit peu basculer. Mais on va voir que cette maturité par rapport au racisme et à son militantisme va évoluer au fil du temps. Donc en 1916, en 1925, quand elle arrive à Paris, déjà c'est incroyable, ça nous paraît incroyable, et tant mieux aujourd'hui, c'est que c'est la première fois quand elle arrive à Paris qu'elle peut aller dans un lieu public avec des personnes blanches et voir être servie, consommée et être servie par des personnes blanches. Elle n'a jamais expérimenté ça avant dans sa vie, puisqu'elle vivait dans un état ségrégationniste. Et même à New York, c'était encore très très compliqué.
Alors on la voit souvent comme une femme de music hall, d'ailleurs vous en parlez.
Elle l'est aussi, oui.
Mais c'est aussi une militante.
Alors, c'est une militante. En fait, quand elle arrive à Paris en 1925, pas du tout. Hein. Joséphine, c'est la petite... elle devient la star du théâtre des Champs-Élysées dans la Revue Nègre, parce qu'elle est... Déjà, elle est remarquée, elle est très originale, elle est très vive, elle est différente des autres. Hein, voilà. Et elle va connaître un grand succès. Alors, elle est militante à deux points de vue. C'est-à-dire qu'elle se souvient qu'elle a été pauvre. Très vite, quand elle va être à Paris, elle va instituer ce qu'on appelle les potes au feu de Montmartre. C'est-à-dire qu'elle va presque l'ancêtre des Restos du Cœur. Elle va jamais oublier qu'elle a été pauvre et elle aura toujours une attention particulière pour les personnes en état de précarité. Mais il faudra sans doute attendre 1936 quand elle va retourner aux États-Unis. Alors qu'elle est devenue une star en Europe, elle va retourner aux États-Unis et là, elle va comprendre qu'elle est à nouveau victime de la ségrégation. Et c'est à ce moment-là qu'elle se dit sans doute que si elle, Joséphine Baker, qui est devenue une star, qui montait sur les plus grandes scènes d'Europe, elle continue à souffrir de cette ségrégation aux États-Unis. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ne sont pas visibles? Et c'est là qu'elle va sans doute avoir un... Ça va basculer et qu'elle va décider de devenir... Enfin, qu'elle va devenir une femme militante. En 1937, elle va épouser un monsieur qui s'appelle Jean Lyon, qui en fait s'appelait Jean Lévy. Et c'est en 1937, l'année où elle devient française, où elle a la nationalité française, qu'elle va commencer à militer à la LICA, qui va devenir la LICRA. Et peut-être qu'il y a aussi une connexion au fait qu'elle soit mariée avec une personne juive, et puis une connexion avec ce qu'elle voit aussi en Europe dans les années 30, puisqu'il ne faut pas oublier que ce sont les années où même en France, il y a un antisémitisme exacerbé, une montée de fascisme. Elle doit sans doute voir, elle n'en parle pas directement, mais elle n'a pas pu ignorer les manifestations des croix de feu, de l'action française, des clamants du roi, par exemple des émeutes de 1934 sur la place de la Concorde. Donc tout ça éveille sa conscience. Mais son voyage en 1936, le fait qu'elle se rende compte que rien n'a changé dans son pays, je pense, a dû avoir beaucoup de poids et d'impact pour le reste de son histoire.
Alors, elle découvre en fait Paris, mais ça vous le montrez. Sa plus célèbre chanson, J'ai deux amours, c'est un mythe.
Oui, c'est incroyable. Ça va être une chanson qui va être pourquoi, je peux pas vous dire pourquoi, mais effectivement c'est un petit peu ce qui déclenche son succès international. C'est un hymne à Paris, c'est un hymne à la France. Est-ce qu'elle fait référence à son pays, les États-Unis? Je ne sais pas. Elle sera toujours affectivement très attachée aux États-Unis, à l'Amérique, hein, bien sûr. Mais je pense que déjà, quand elle chante « J'ai deux amours, mon pays et Paris », je pense que de toute façon, elle est déjà devenue internationale, si vous voulez. Elle n'appartient plus à personne. Et d'ailleurs, elle est enterrée. Elle est en Panthéon, mais c'est un cénotaphe, parce qu'elle est enterrée à Monte-Carlo. Et dans ses dernières volontés, elle est restée dans son dernier pays d'accueil.
Alors, c'est une des reines de Montparnasse. Hein. Nous avions invité l'année dernière Mathieu Leval pour son livre Montparnasse, lorsque Paris éclairait le monde. Mmh. Et on parlait du bal de la rue Blomet. Les affiches sont célébrissimes. Elle est présente dans une exposition qui s'est terminée il n'y a pas très longtemps, mais le catalogue existe toujours, le Paris de la modernité, avec son portrait par Van Dogen. Mmh. Elle est vraiment une star. Hein, elle chante, et elle danse, et elle vit. Et elle vit, alors, sa célèbre danse avec les bananes, là. Pourquoi, d'après vous, a-t-elle voulu autant valoriser cette scène? Il y a une raison, d'après vous?
En fait, Joséphine, elle arrive à New York, elle arrive avec les premières comédies musicales interprétées par des personnes de couleur, mais quand elle arrive à Paris, c'est donc en 1925, et c'est l'époque où on est complètement fasciné. Quand je dis les Français sont, et les Européens, mais les Français en particulier, sont fascinés par tout ce qui est exotique venu des colonies. On va voir en 1931 la fameuse et terrible exposition coloniale au palais de la Porte Dorée. C'est la découverte par les artistes contemporains des arts premiers. Donc en fait, Joséphine, elle surfe un peu là-dessus. Sur son côté exotique, d'où les bananes, qui aujourd'hui seraient totalement incorrectes politiquement, puisque on a une lecture différente aujourd'hui de ce qu'étaient nos colonies et de notre approche par rapport aux arts premiers aussi, qu'on appelait les arts primitifs. Elle est dans un autre. Je pense qu'il faut remettre ça dans un contexte différent. Celle de la fascination des colonies, celle de la fascination de l'exotisme et celle de la grande découverte des arts premiers. Et du coup, effectivement, quand l'exposition, on voit bien ça dans l'exposition du Petit Palais, là, le Paris de la modernité. Oui. Paris, c'est ça, c'est la ville où se retrouvent de nombreux artistes qui ont fui leur pays, hein, pour des raisons souvent politiques, et où il y a une liberté de création. Et puis ce sont les années folles, hein, il n'y a pas du tout de tabou, toutes les règles sont brisées. Il y a le surréalisme dont on fête le centenaire cette année en 2024. Donc c'est un, les gens veulent absolument oublier la Grande Guerre qui a fait beaucoup de morts, beaucoup de blessés, qui a été très traumatisante. Et Paris est cet endroit où tout est permis, aussi bien dans les mœurs que dans les arts. On tourne une page, on tente de tourner une page et on va le faire avant que malheureusement en 1931 Paris soit à nouveau, à son tour touché par la crise économique.
Alors elle sera après la guerre, enfin pendant la guerre, elle sera une résistante et je crois que vous écrivez au détriment de sa carrière.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait Joséphine Becker va vraiment s'investir complètement dans la résistance. Elle va commencer pendant la drôle de guerre, elle est chantée sur le front pour remonter le moral des soldats. Mais elle devient déjà une espèce de Mata Hari en allant, puisqu'elle est beaucoup reçue, elle continue à voyager en renseignant déjà le deuxième bureau qui l'a approché. Quand elle va dans des ambassades ou quand elle entend des choses dans des réceptions un peu chic où il y a des gens importants. Et puis dès 1940, elle va justement partir en Dordogne et elle va au sein du château des Milandes officiellement être recrutée par le deuxième bureau. Et elle aura un pseudo secrétaire qui sera appelé Hébert, mais qui c'est en réalité un certain monsieur Aptet, qui est en fait de l'intelligence service. Et là, elle va vraiment rentrer dans la résistance. Elle devra partir en Afrique du Nord parce que sa sécurité sera compromise. Et donc moi je dis qu'elle est, oui, elle a mis sa carrière entre parenthèses, parce que à Paris, comme vous le savez, la vie artistique continue pendant l'occupation. Oui. Elle a régné ça de sa carte. Et après elle part en Afrique du Nord où elle va être très malade. D'ailleurs, elle va tomber malade. Elle va être opérée à plusieurs reprises. Et ensuite, elle suivra les troupes du maréchal Leclerc jusqu'en Allemagne au moment de la libération en 1945. Donc jusqu'au bout, elle s'investit auprès de l'armée française, auprès de la résistance, après de l'armée française de libération. Et donc, en ça, elle a quand même mis entre parenthèses sa carrière.
Oui. Alors, on poursuit à grands traits, bien évidemment, parce que ça sera intéressant d'avoir une biographie, mais bon, c'est pas l'objet là ni du livre ni de notre émission. Et elle intervient aussi avec Martin Luther King.
Oui, oui, tout à fait. Après avoir été blacklistée aux États-Unis, parce qu'on l'avait accusée d'être communiste, elle va être sollicitée par Martin Luther King pour cette grande marche des droits civiques qui aura lieu à Washington en 1963. Et elle sera d'ailleurs la seule femme à intervenir à la tribune auprès du pasteur Martin Luther King. On peut trouver l'intégralité de son discours sur Internet. C'est un très très beau discours. Et là, elle arrive bien, vous voyez, c'est plus la femme du musical. Elle y va en uniforme d'officier français avec ses médailles, etc. Donc il y a vraiment, comme vous disiez tout à l'heure, je serais un peu contradictoire avec ce que vous avez dit au tout début de l'émission, c'est qu'elle n'est pas à proprement parler féministe, en fait. Elle a fait beaucoup pour les femmes, mais en fait, elle est pour tout. Elle se bat pour toutes les personnes en situation de vulnérabilité, pour toutes les minorités, et à l'époque, les femmes font partie des minorités.
Oui. Voilà. Alors, plus intime, expliquez-nous cette notion de famille arc-en-ciel qu'elle constitue.
Alors, c'est intime et en même temps, c'est aussi un acte politique. C'est-à-dire que, alors, en 1942, comme je vous le disais, en Afrique du Nord, Joséphine Becker a subi de nombreuses opérations. Elle apprend qu'elle n'aura pas d'enfant. Et en fait, quand elle a constitué cette tribu arc-en-ciel, elle adopte 12 enfants, 10 garçons et 2 filles. C'est vraiment pour montrer, elle veut montrer au monde que la fraternité universelle est possible. c'est une belle utopie. Hein. Et d'ailleurs, elle dit, dans mon livre où j'ai cité, elle disait « J'ai adopté ces enfants pour donner l'exemple de la fraternité. Je n'ai pas le temps d'analyser l'importance de cet idéal, mais j'ai prouvé que si on veut vivre en frère, ensemble, c'est possible. Il faut simplement vouloir. » Et oui. Visiblement, elle a réussi, en tout cas à l'échelle de sa fratrie, de cette fratrie de 12 personnes, venues du monde entier, avec chacun des religions différentes. Elle a réussi son coup, puisque c'est un noyau très très uni et très fraternel.
Et alors, votre livre est préfacé par un de ses fils,
Brian. Voilà, tout à fait. Brian, qui en fait s'appelait Ibrahim, qu'elle est allée chercher en Algérie. Voilà, donc elle était partie pour chercher une petite fille, et puis à l'orphelinat, on lui a présenté ce petit bébé adorable, et du coup, elle est revenue avec deux enfants à la maison. Voilà, et aujourd'hui, Brian est comédien, il travaille beaucoup pour autour de la mémoire de sa mère, il a été très actif au moment de la panthéonisation. Et en fait, c'est le seul qui a désobéi à sa mère, puisque elle ne voulait pas que ses enfants soient artistes. Mais c'est le seul qui soit devenu comédien. Voilà. Les autres ont des métiers beaucoup plus classiques.
D'accord. Alors, dans notre émission, on aborde, on parle aussi des acteurs de la chaîne du livre, autrement dit de la maison d'édition. Et là, vous avez publié aux éditions du Palais. Elles sont assez peu connues, excusez-moi. Vous pouvez nous les présenter ?
Voilà, c'est une petite maison d'édition indépendante parisienne qui, au départ, est plutôt spécialisée dans le beau livre et dans tout ce qui est patrimoine. J'ai moi-même publié plusieurs ouvrages avec eux sur la région de Bourgogne, sur Auxerre, sur l'Auxerrois, sur un château Renaissance de Lyon qui s'appelle Ancilfranc. Voilà, donc c'est une petite maison d'édition indépendante parisienne. Voilà.
D'accord. Pour votre livre, là, vous avez travaillé des illustrations, c'est votre choix, c'est quand...
Le choix iconographique en général, c'est un travail collectif avec l'éditrice et la maquettiste. Comme je vous disais, nous sommes une petite structure. Donc, le choix iconographique, en général, nous le faisons à trois. Et c'est assez jubilatoire d'aller fouiller dans les archives, les fonds, et de trouver des photos, des illustrations, des peintures, comme dans le cas de Joséphine Baquer. C'est pas que de la photographie, il y avait aussi, puisqu'elle a été vraiment la muse, comme vous disiez tout à l'heure, de Montparnasse.
D'accord. Vous avez d'autres projets d'ouvrages ?
J'ai publié sous le même format un recueil de citations de Simone Veil au mois de mars. Voilà.
Mais pas d'autres projets, là, si ?
J'ose pas en parler parce que c'est vraiment pas du tout validé. Par contre, nous avons dans la même collection fait Churchill, Clémenceau, De Gaulle.
D'accord. Très bien, écoutez, vous pouvez nous rappeler le titre de l'ouvrage ?
Donc, dans la collection Géant, c'est Joséphine Baquer, citation aux éditions du Palais.
Très bien. Eh bien, Sophie Boiré, merci pour cet échange. Et puis, dès que vous avez avancé sur vos autres projets, vous nous en faites part. Merci.
Au revoir. Je vous remercie infiniment. À très bientôt. Au revoir.
Est-ce que tu peux passer, Joséphine Baquer, là, le Paris-Paris ?
Ne me demandez pas si j'aime la grâce, ne me demandez pas si j'aime Paris, autant demander à l'oiseau dans l'espace s'il aime le ciel ou s'il aime son nid. Autant demander aux marins qui voyagent s'ils peuvent vivre sans la mer et le beau temps. Autant demander à une fleur sauvage s'il en peut vraiment se passer de printemps. Paris, 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 c'est sur la terre un coin de paradis. Paris, Paris. Paris, Paris. De mes amours, c'est lui le favori. Mais oui, pardi. Ce que j'en dis, on vous l'a déjà dit. Et c'est Paris qui fait la Parisienne, qu'importe qu'elle vienne du Nord ou bien du Midi. Et c'est aussi le charme et l'élégance et l'âme de la France, tout cela, mais c'est Paris.
Paris, Paris, Paris.
Madame, c'est votre gaube si jolie.
Paris, Paris, Paris.
C'est votre beau bijou d'un goût exquis. Mais oui, pardi. C'est aussi votre généreux mari. Mais oui, Paris, c'est votre boucle blonde qu'on sait le mieux du monde coiffée avec fantaisie. Mais oui, Paris, c'est votre beau sourire. C'est tout ce qu'on désire, tout cela, mais c'est Paris. Et c'est aussi le charme et l'élégance et l'âme de la France. Tout cela, oui, c'est Paris.
Alors nous, toujours dans, nous revenons un petit peu à la question de lancer le débat, de réfléchir. Nous parlons des livres, mais qu'en est-il des droits d'auteur de ceux qui vivent de leur production, les auteurs? Bien. Les temps sont durs pour les auteurs, les artistes et les créateurs. Je vois, je connais un certain nombre de personnes qui sont au chômage, qui sont dans des situations très difficiles. L'intelligence artificielle, appelons-la ainsi puisque c'est l'expression à la mode, constitue une menace. Bien sûr, il est possible de détecter les failles du système, mais le pire est sans doute que ces systèmes utilisent des œuvres produites par des femmes, des hommes, qui s'y investissent. Les logiciels malaxent ces œuvres, si bien que le droit des créateurs est spolié de façon éhontée. Bien sûr, le plagiat est une vieille habitude, et le poète Martial, au 1er siècle de notre ère, ça ne nous rajeunit pas, rappelez-vous, dénonçait le comportement d'un certain Fidentinus, le qualifiant de plagiaire. Et ceux qui utilisent les textes, les tableaux, les photos pour s'en attribuer la paternité portent atteinte aux droits moraux et patrimoniaux. C'est un vol. Songeons aux difficultés d'existence de ces créateurs. Oui, une spoliation. Et Jean-Baptiste Rendu, Richard Robert, s'attache dans leur ouvrage « Une brève histoire du droit d'auteur » publié chez Flammarion, à retracer le parcours des créateurs de la défense de leurs droits. Il était légitime que nous présentions ce livre dans cette émission. Et rappelons que dans une émission du 25 octobre 2023, notre invité, Vincent Chabot, auteur d'un ouvrage sur le livre d'occasion, soulignait que les auteurs n'avaient pas de rémunération sur la revente de leurs livres. Ils n'ont de rémunération que sur la vente d'un livre neuf. Initialement, des écrivains comme Beaumarchais, Victor Hugo ont alerté les pouvoirs publics. Et puis d'autres vont insister sur tous les artistes des arts visuels, la figure du créateur qui est valorisé, celui qui signe son œuvre, comme je disais, qui dispose de droits moraux et patrimoniaux. Évidemment, on va en parler, mais évidemment, ça pose aussi la question de la copie et des prêts. Sous l'Ancien Régime, les imprimeurs exigent la protection à l'égard de la contrefaçon. On va créer, sous François Ier, le dépôt légal. On en a parlé de ce dépôt légal et de la création de François Ier. On en a parlé dans notre précédente émission qui portait sur la Renaissance, où il y a une exposition qu'il faut vraiment aller voir à la BNF. Et après la Révolution française, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme permet de tout publier. Alors vous découvrirez dans cet ouvrage le combat des créateurs, les débats. Faut-il donner un droit d'auteur? Proudhon et Louis Blanc sont opposés à ce droit d'auteur. Pour eux, il faut que l'œuvre circule sans entrave. C'est la jurisprudence, à savoir les décisions rendues par les juges, qui contribuent à trouver un point d'équilibre. Et Alfred de Vigny écrit « Les éditeurs sont des négriers. Rien de difficile à un auteur qui n'a que sa plume pour vivre, comme de se dérober à eux. » l'éditeur cherche des ouvriers qui rapportent et tâche d'abord de les réduire à la plus profonde misère. Et pour ma part, je connais certains éditeurs, je ne donnerai pas de nom, qui n'ont que mépris pour leurs auteurs. Mais comment faire pour créer, diffuser et vivre ? Et surtout, comment se défendre contre une internationalisation des relations économiques ? En 1886, on aura la création de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, puis il y aura un combat qui sera encore bien long à mener. Un autre débat, l'artiste est-il un travailleur comme les autres ? Bon, certains s'en offusqueront, comme Jules Romain. Doit-on accorder un fixe à l'artiste en échange duquel celui-ci produit des œuvres ? Un attachement difficile à concevoir pour certains. Ah, on est attaché, effectivement. Si on commence à avoir un fixe, après ça, c'est difficile d'aller ailleurs. Bref, les particularités des créations, la sensibilité des créateurs conduisent à des lenteurs, des rivalités dans la construction d'un droit protecteur. Et puis nous arrivons à la loi de 1957, c'est une très bonne année. La loi consacre une vision large de la qualité d'auteur d'œuvre de l'esprit, c'est-à-dire d'une création, je cite, dont la forme originale traduit la personnalité de son créateur. Toutes les œuvres, quelles qu'elles soient, bénéficient d'un même cadre comprenant l'ensemble des droits protégeant le créateur et son œuvre. Et vous trouverez dans ce livre de très belles pages sur le droit d'auteur face au défi des nouvelles formes d'art. Soulignons une nouvelle fois l'intelligence artificielle. Mais que faire de ces fichiers numériques infalsifiables ? L'impression en 3D ? Qui est titulaire des droits ? La machine ? Le créateur ? Personne ? À la base, ce sont les productions artistiques. Quelle évolution ? Révolution de Martial à l'intelligence artificielle. Et pourtant, reprenons la conclusion des auteurs. Tout ce qui chemine de l'esprit de l'artiste vers une expression formelle originale mérite protection. Je relève aussi la qualité de l'ouvrage sur le plan formel, c'est-à-dire que c'est un ouvrage, c'est un livre relié, non broché, une typographie et une mise en page soignées, une iconographie de toute beauté qui met bien en valeur le génie humain. Je rappelle les auteurs, le titre, Jean-Baptiste Rendu et Richard Robert, une brève histoire du droit d'auteur aux éditions Flammarion en 2024. Nous avions parlé de Paris avec Sophie Boiret en abordant la question de la place de Joséphine Baker, le rôle de Joséphine Baker, cette reine de Paris, cette reine de Montparnasse. Et si nous parlions aussi d'un autre livre sur Paris, de cette petite collection que j'aime bien, c'est la collection Paris perdu, aux éditions L'Échappée. Elle poursuit sa promenade, cette petite maison d'édition et cette petite collection, dans Paris. Elle nous conduit là dans le quartier de la gare Saint-Lazare, plus précisément rue du Havre, à l'invitation de Paul Guimard. Oh, Paul Guimard est un peu oublié aujourd'hui, comme le souligne sa fille dans sa préface. Bon, hormis son roman « Les choses de la vie », vous avez certainement vu le film, le livre adapté au cinéma par Claude Sautet. Là, le livre... Rue du Havre, nous sommes dans les années 50-60, et le flot des banlieusards se déverse par les escaliers sur la cour de Rome. Alors vous êtes vraiment à Saint-Lazare, là. Hein. Ces femmes, ces hommes se dirigent vers leurs bureaux, les grands magasins, comme un certain François et une certaine Catherine. Un homme les regarde avec tristesse dans sa solitude. Julien Legris. Ça s'invente pas. Bon. Ancien combattant, habitant en ville d'Avray, il se cale tous les matins dans un angle à proximité du lycée Condorcet. Il vend des tickets de tombola au bénéfice des gueules cassées, les blessés de la Grande Guerre. Tentez votre chance, après-demain le tirage. Un personnage de ces rues de Paris, de ces années d'après-guerre, oubliée de nos jours. Je me rappelle, moi, cette personne... J'en connaissais un du côté de la rue des Nouettes, pas loin de là où habitait ma grand-mère, et qui vendait au profit des ailes brisées. Alors il est seul, sa vie est morne, triste. Il naît sans amour de ses parents, vraiment. Julien Legris porte bien son nom. Il se marie sans amour et sans ennui. J'aime la formule. Les années avaient passé très vite, comme elles font quand elles sont vides. Comme dans tout roman de qualité, il y a plusieurs histoires dans ce livre. La vie quotidienne du quartier, scandée par les arrivées et les départs de train. À Saint-Lazare, de nos jours, la régularité des arrivées et des départs, c'est du domaine de la science-fiction. Un homme, Julien, qui vit de peu, de sa solitude, qui s'assoit le midi dans le square de la chapelle de l'Expiation, se fait gourmander par le gardien, une illusion de dialogue. Je cite, « On est malheureux, mais on est solitaire. » La solitude est une maladie dont le virus est inconnu et l'évolution irréversible. L'autre aspect du roman, c'est le hasard. 11 minutes entre des arrivées de 2 trains. Et puis cette fatalité. François tourna vers la gauche. Catherine s'enfuit à droite. La fatalité avait de justesse repris l'affaire en main. Vous goûterez le style soigné, et puis des formules d'un autre temps. Ces vieillards qu'on voit attacher le sucre au détail dans les épiceries. Vous vivrez dans les grands magasins. Et puis, évidemment, vous aurez un très beau livre sur... Un moment d'affection. Alors, un livre délicieux, publié en 1957, une belle année. Faites-vous plaisir et allez chez Mollard, une brasserie évoquée dans le livre Les brasseries parisiennes de l'avant-siècle, ce livre est aussi publié aux éditions L'Échappée en 2023. Je rappelle, Paul Guimard, rue du Havre, édition L'Échappée, collection Paris perdu. Oui. Il me semble que nous avons Dominique en ligne.
Oui, je suis bien là.
Alors, Dominique, donc les choses se sont un peu arrangées, semble-t-il. Est-ce que tu peux nous parler de ton livre? Là, tu as choisi, là, tu vas nous faire un petit peu rêver. On va loin, là, on quitte Paris, on est loin.
On va au Tibet. Alors, c'est le livre Voyage d'une Parisienne à Lhasa d'Alexandra David Nel, qui a édité chez Plomplon, a repris la collection Terre humaine, hein, créée par Jean Mallory. Alors, avant de vous expliquer ce que contient le livre, quelques mots sur Alexandra.
Oui, qui est-elle?
Alors, cette femme est née en 1868 à Saint-Mandé et est décédée assez vieille, hein, 101 ans. C'était au départ une artiste lyrique, puis une journaliste attirée par l'orientalisme et le bouddhisme. Elle se marie avec David Nel, qui la soutiendra même après leur rupture, car c'est une nomade hein, dans l'âme, 25 ans de voyage, 14 ans en Asie, 8 ans au Tibet. C'est une grande voyageuse, et pour l'époque, c'est assez rare hein, qu'une femme voyage. Alors, on verra que parfois, elle ne voyage pas tout à fait toute seule. Hein. Rappelons que le Tibet est interdit aux étrangers depuis le 19e siècle. Il y a 3 empires qui se bagarrent pour avoir le pays, la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine. Le pays obtiendra son indépendance en 1912 sous contrôle britannique, mais retombera dans l'escarcelle chinoise en 1951. Alors, Alexandra entreprend ce voyage en octobre 2024 avec son fils adoptif.
En 2024, t'es sûre ?
En octobre 1924.
Ah.
Donc, c'est pour ça que c'est 100 ans après, jour pour jour. Elle va se rendre à pied à Lhasa en partant du Yunnan en Chine, soit une balade de 8 mois à travers l'Himalaya. Et elle fut la première femme occidentale à atteindre Lhasa et à connaître une grande notoriété. Elle fut aussi la première femme à obtenir une audience auprès du Dalai Lama. Alors, elle va raconter les conditions de son voyage qui sont assez...
Alors, c'est rocambolesque, non ?
Oui, oui, oui. Alors, elle marche incognito, hein, parce que comme le pays est interdit, il ne faut pas qu'elle se fasse prendre. Donc, elle marche de préférence la nuit, déguisée en mendiante. Elle n'a pas de carte sur elle, de carte géographique. Alors, pour s'orienter, elle a discrètement dissimulé dans les ourlets des petits bouts de papier sur lesquels sont recopiés des bribes de cartes ainsi que des boussoles. Elle ne prend pas de notes sur un cahier, elle part sans crayon, sans stylo, elle écrira tous ses souvenirs à son retour.
Et les conditions sont très rudes, hein, si je me souviens bien dans le livre.
Oui, alors il faut affronter le froid, parfois moins 40, la neige, les tempêtes, le coucher à même le sol. Elle passe des cols à 5200 mètres. Elle traverse des ponts. Alors il y a un pont de fer dangereux qui se balance sans parapet. Elle se suspend sur un pont de cuir avec un câble branlant. Et bon, elle se perd parce que beaucoup de villes ne sont pas indiquées sur les bribes de cartes. Donc c'est vraiment un voyage difficile.
Et alors la population est accueillante ?
Oui, alors pas toujours. Hein. Alors elle va rencontrer beaucoup de bandits qui cherchent à les détrousser, même s'ils sont habillés comme des mendiants et parfois même à les tuer. Certains villageois ont peur d'eux et les chassent, comme ils ne voient pas d'étrangers, donc ils ont peur des étrangers. Alors il faut dire que c'est une population très pauvre et très superstitieuse. Hein. Ils demandent souvent à ce que son fils adoptif leur prédise l'avenir, y compris des hauts fonctionnaires et des lamas qui sont quand même des lettrés, hein, bouddhistes. Mmh. Alors, les dieux sont innombrables et peu sympathiques. Il y a le roi de la mort, il y en a un sur une selle faite de peau humaine, il y a des sorciers. Donc, il y a tout un environnement quand même assez mythique. Hein. Dans la vallée des Popas, les gens ont mauvaise réputation du cannibalisme. Hein. Les hommes sont beaux mais fourbes, dit-elle. Ils prélèvent des taxes sur les voyageurs, puis les tuent. Donc, c'est très joyeux. Et donc, elle est déçue aussi sur les marchés. Les marchés sont sont peu garnis, hein, comme c'est une population pauvre. Il y a peu d'aliments, et puis les biens, peu de biens. Il y a des poils en alu et des cotonnades, surtout des cotonnades très moches.
C'est tout de même un livre qui est assez intéressant sur l'aspect sociologique de cette époque. Hein.
Ah oui, oui, c'est très ethnographique hein, comme livre. Oui. Bon, et puis bien sûr, c'est aussi la région, une région très religieuse.
Oui, c'est très religieux, la population, oui.
Hein. Oui, oui, oui. C'est même parfois moyenâgeux, hein, comme pays, puisque alors il y a de nombreux monastères sur les hauteurs, hein, ils sont tous tenus par une certaine élite. Certains sont magnifiques, ça ressemble à des musées. Hein. Elle décrit rapidement, elle passe un peu rapidement sur les valeurs du bouddhisme. Par exemple, elle décrit le concept d'impermanence des choses. Les lamas ne prononcent jamais des vœux ad aeternam, hein, comme la religion catholique. Mais alors, les monastères sont des petits états, parfois avec 10 000 personnes, avec des terres, des troupeaux et des serfs. Hein. Ils doivent remplir des corvées. C'est pour ça que ça ressemble à notre Moyen-Âge. Hein. Bon, mais il y a des passages amusants. Le Dalai Lama est porté sur une chaise au son de la musique anglaise et de pétards chinois. Les processions sont grandioses avec des étendards flamboyants. Et puis j'ai adoré, il y a une cérémonie, la cérémonie du bouc émissaire. Donc dans chaque monastère et chaque ville autour, il y a un homme qui est choisi et qui est chassé de la ville et qui consent à prendre sur lui toutes les colères des villageois. Il est payé hein, pour ça. Et il doit subir des insultes et des attaques physiques. Bon, et puis elle rencontre aussi des gens portés sur des mondes invisibles, les forces occultes, des ascètes, des médiums, des possédés, des empoisonneuses. Alors, toujours des femmes.
Oui, bien sûr.
Oui. Des rites macabres, des détenteurs de formules magiques. Donc tout ça, c'est un petit monde loin de l'Europe. Hein.
Avec ces personnes, sur ces personnes, pardon, elle va écrire quantité de livres qui passionneront les gens. Hein. C'est assez étonnant.
Ah oui, elle va être très très lue, oui.
La nourriture aussi pose...
Oui, Alors, la nourriture est acétique, hein, composée de thé, au beurre et de tsampa, c'est de la farine d'orge grillée. On apprendra des recettes de cuisine tibétaine et l'art d'allumer un feu à base de bouse séchée de yak. Mmh. Mais alors, parfois, elle fait des repas qu'elle n'aime pas. Par exemple, on lui montre une charogne de bête et sur lequel on a prélevé l'estomac, les rognons, le cœur et le foie. Ils mettent ça dans un sac de jute et ensuite, on doit manger. Et elle n'a pas le droit de refuser, sinon les gens se vexent et elle risque sa vie. Hein, si elle...
Alors, il y a un moment, c'est l'épisode de la soupe. Hein.
Ah oui, oui. Alors, je lis l'extrait. Un liquide trouble dont l'odeur fade rappelle celle de l'eau de vaisselle. Maintenant, quelques poignées de farine délayée. C'est le moment de servir. La soupe est vraiment excellente aujourd'hui. Délicieuse. Mais en dépit de mon long séjour au Tibet, je garde encore un vague souvenir du goût de la cuisine française. Et j'ajoute, les chiens de mon père n'auraient jamais voulu avaler un pareil brouet.
Alors, il y a des paysages merveilleux.
Oui, alors, bien sûr, on traverse les fleuves, le fleuve jaune, le lac bleu, les grands lacs, le Mekong. Elle marche dans d'épaisses forêts vierges, il y a des éclaircies, il y a des torrents, il y a des glaciers, des cascades. Enfin, tout ça, c'est vraiment magnifique. Hein. Les descriptions de la nature sont vraiment magnifiques.
Alors, est-ce qu'on peut émettre, non pas des critiques, mais oui. Replacer le livre dans son époque, dans son contexte.
Oui, oui, parce que alors il y a des choses qui passeraient peut-être moins bien aujourd'hui. Ah bon, d'abord, je vous ai dit, elle ne voyage pas seule. Elle est avec son fils adoptif et sa femme, et ils sont 6 personnes. Hein. Il y a des serviteurs, donc ils lui font à manger, qui lui font qui l'aident dans sa toilette. Donc elle n'est pas seule. Hein. Et puis alors il y a des remarques aussi qui sont par exemple quand elle rencontre certaines populations, elle dit oui, ce sont des brigands nés, des fielleux, des fourbes. C'est des choses qu'on ne dirait plus dans les mêmes termes aujourd'hui. Hein. Mais elle est quand même on sent quand même donc sa forte détermination. Hein, dans
oui, le... alors c'est comment elle a quand même la trouille d'être arrêtée par les fonctionnaires, les brigands.
Oui, oui, c'est ça. Alors les brigands, les fonctionnaires, les populations des fois qui l'accueillent mal. Hein. Donc malgré ça, elle continue et elle dit qu'elle passera sans arrêt dans le livre. Elle dit je passerai. Donc c'est vraiment une volonté vraiment très très forte. Hein. Et c'est en cela qu'on peut on peut l'admirer.
Et donc voilà. D'accord. Alors, je rappelle simplement que David Nel était aussi une très proche d'Élisée Reclus, qu'elle a fini sa vie, si je puis dire, à Digne-les-Bains, que sa maison est transformée en musée, qu'elle a eu un parcours étonnant. Bon, on la voit en photo.
Visité.
Avec Reclus, on la voit aussi, elle a été franc-maçonne, elle était au 33e degré. Enfin bon, donc c'est une femme qui a eu un parcours assez étonnant. Quel est le prochain livre que tu vas nous commenter?
Avant de présenter le prochain livre, je voulais aussi signaler la sortie d'un autre livre sur une voyageuse qui s'appelle Ella Maillard. Une Suissesse qui a aussi entrepris de grands voyages, qui est paru récemment, et peut-être que j'en ferai aussi une présentation.
Ouais, peut-être une autre fois, parce que je crois que le prochain, c'est L'Enragé.
Alors, oui, c'est L'Enragé de Georges Chalandon, qui vient d'avoir un prix. Donc, je présenterai ce livre. Et on revient en France, à Belle-Île-en-Mer.
Ouais. Alors donc, rappelons le titre, hein, c'est Voyage d'une Parisienne à Lhasa, c'est collection Terre Humaine, et c'est Alexandra David-Nel.
Hein, oui,
et pas
Nel,
comme on dit.
Oui, oui, c'est hein. Nel, oui.
Voilà, tout à fait. Bien, ben merci Dominique.
Allez, bonsoir.
Allez, bonsoir. Toujours dans... Alors, c'est pas un roman, là, c'est un moment d'histoire. Je voudrais vous dire deux mots d'un livre. C'est le journal intime de Franz Kafka. Kafka, c'est un écrivain tchèque d'expression allemande qui est né en 1883, qui est mort en 1924. Il est évidemment connu pour La Métamorphose, Le Procès, et puis pour l'ambiance particulière de ses œuvres qui mêlent absurdité et réalisme. On lui doit des bouquins comme La Colonie pénitentiaire, Le Château, Le Verdict. Verdict, ça, avec Le Procès, c'est parfait. nous sommes là dans l'année du centenaire de la mort de Kafka. Donc, tu auras certainement la réédition de livres que je viens d'évoquer. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est un ouvrage moins connu, son journal intime, que les éditions Rivage ont eu la bonne idée de publier en poche. Nous pénétrons davantage dans l'intimité de Kafka. Bien sûr, je vous incite à découvrir la préface de Pierre Klosowiski, mais les réflexions, les doutes, les sentiments de Kafka se révèlent au fil des pages dans ce journal débutant en 1910. Et c'est parti pour des pages d'introspection. Je cite « J'ai peur de trahir ma conscience de moi-même ». Il fait état de sa santé. Je rame, je monte à cheval, je me repose au soleil. Aussi mes mollets sont-ils fermes, mes cuisses en bonne forme, mon ventre passable. Mais déjà, ma poitrine est minée et si ma tête est dans mon cou, trois petits points. Les reproches à ses parents et à sa famille reviennent souvent. Nous retrouvons cette analyse des rapports familiaux dans des extraits en seconde partie du livre. Et puis nous sommes à Prague. Nous sommes à Prague avec le monde. Pragois, je songe à ce très beau livre « Praga Magica » d'Angelo Repilino, qui a été publié là, lui aussi dans la collection Terre Humaine. Il assiste à des conférences, il a la dent dure, et puis il a l'écriture, cette hésitation à prendre la plume, pour écrire quoi, sa table de travail. Plus étonnant, en 1911, il songe à la Commune, à Prague. Kafka, c'est assez intéressant. Il cite aussi évidemment ses célèbres insomnies, et puis il y a un autre aspect passionnant, c'est sa description de la communauté juive, du théâtre, des conférences, de sa langue, le yiddish, et une très intéressante réflexion sur la question juive. Là, ça n'est pas sans rappeler un livre de Sartre. Il nous promène dans Prague, développe son art du portrait, des scènes de rue, et toujours cette difficulté d'écriture, est sans lien avec la maladie, sa maladie. Ben, vous lirez. La solitude lui pèse. Il y a une très belle page consacrée au célibat. Et nous avançons dans les années. Il renforce son introspection. Il relève qu'il a beaucoup souffert en pensée. Toujours cette insatisfaction qui le taraude en 1922, 1923, les insomnies, les rêves, les songes. Il est vraiment anxieux, toujours anxieux au moment de rédiger. Ce livre se lit comme, comme des lettres que Kafka nous enverrait à quelques années, on va dire ça comme ça, d'écart. Franz Kafka, journal intime. Payot, Rivage Poche, en 1924. Et puis, nous arrivons sur la fin de l'émission. Je voudrais terminer par un livre. Là aussi, c'est pas un roman. Je le mettrais bien dans la rubrique « Le son des mots ». Des livres charmeurs dans la rubrique que j'appelle « Le son des mots ». Aujourd'hui, je vous propose le Raspail vert de Michel Brodeau. C'est toujours un plaisir de retrouver un texte, une chronique, un livre de Michel Brodeau. Je le suivais avec impatience lorsqu'il était feuilletoniste au Monde des Livres, rédacteur en chef de la NRF, la Nouvelle Revue Française. Et avec une grande élégance, il nous invitait, ses lecteurs, à découvrir un poème, un livre classique, au détour d'une rue, lors d'un jour de pluie, hivernal ou au contraire de chaleur estivale. Oui, il y avait beaucoup de charme et quasiment toujours un lien charnel avec Paris, ses parcs, ses rues. Depuis 1917, il publie ses souvenirs, ses rêveries dans des livres aux noms évocateurs de Paris. Place des Vosges, rue de Beaune, la Porte Dorée. Un côté piéton de Paris de Léon-Paul Fargue, vous voyez, ou dans le ton peut-être les romans de Patrick Modiano. Tiens, moi aussi je déambule dans les arrondissements parisiens. Et sa dernière livraison a pour titre... Le Raspail vert, publié chez Stock en 2024. Bien sûr, nous sommes entre le 4e et le 14e arrondissement. Michel Brodeau y a posé ses bagages, ceux de sa vie qui a manqué lui échapper sur un trottoir de ce même boulevard. Ça marque un homme et ça donne envie de vivre la vie. Il raconte cet épisode, il revient sur ce malaise, il parle de son opération et il y revient à plusieurs reprises dans le livre. Vous découvrez le quartier, l'immeuble où vécut Sartre et aujourd'hui Michel Brodeau. Le vert du boulevard est en écho à celui des arbres. C'est aussi le nom d'un café de l'époque. Michel Brodeau nous conduit au gymnase, un autre café avec ses amis. Il poursuit l'écriture de ce livre, en fait, qui n'aura jamais de fin, sauf avec celle de son auteur. Les livres qui se suivent, Place des Vosges, Rue de Beaune, La Porte Dorée, c'est en fait un seul et même livre. Et comme de nombreux écrivains, Michel Brodeau écrit sur ses chats. Le chat parle, le chat regarde, accompagne. Là, c'est Baudelaire qui me vient en mémoire. Baudelaire, justement, enterré juste à côté, au cimetière du Montparnasse. Et il a aussi de très belles pages sur son bureau. Et puis les souvenirs, les réminiscences, le souci de la mémoire, le rôle des notes. Peut-être que je m'y retrouve un peu, moi aussi, lorsque je suis à mon bureau en train de réfléchir. Michel Brodeau est né à Niort, mais en fait, c'est un Parisien. Place de Clichy, des souvenirs du premier amour, les brasseries. Tiens, nous avons présenté, et voici quelque temps, Jour tranquille à Clichy d'Henri Miller. Vous aimerez ces promenades dans Paris. Et puis, est-ce que tout peut se raconter? Apparemment, pour Brodeau, oui. Oui, tout peut se raconter. Et la passion du livre, quand même, Brodeau, c'est le livre. Lire m'a fait gagner ma vie et la perdre en même temps. Encore fallait-il en passer par là pour le savoir? On lit, on écrit, on ne vit plus que dans les mots, et les siens, et ceux des autres, pendant des années. Et un jour, on ne comprend plus qu'un petit nombre de gens de livres. Les livres sont comme les amis, ils meurent bien trop tôt parfois, et n'en finissent plus de nous manquer. Est-ce bientôt fini? Allez, Michel Brodeau regarde son chat s'étirer. Il dit, je cite, « La prochaine fois, je reviendrai sous la forme d'un chat. » Donc, ce n'est pas près de finir. Michel Brodeau, Le Raspail Vert, publié aux éditions Stock en 2024. Eh bien voilà, chers amis, nous avons, dans des conditions un peu difficiles sur un plan technique, assuré cette émission. J'espère que ça ne se traduit pas trop sur le déroulé. C'était les livres que nous souhaitions vous présenter. C'est fini pour aujourd'hui dans Au fil des pages. Le mercredi 8 mai, ouais, c'est ça, nous recevrons Barbara Borde pour nous parler de son livre « Le camp des oubliés, Argelès-sur-Mer, février 39 », publié chez CBE Éditions. Tu vois, Ramon, on est toujours avec l'Espagne dans cette émission. D'ici là, bonne lecture. Et l'équipe d'Au fil des pages vous souhaite ni Dieu ni maître, toujours avec Léo Ferré. Et nous laissons la place à nos amis de Femmes Libres. À bientôt et au plaisir de partager.
Avec la peur qui prend la patte, le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles tombe froide sur la dalle et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces voix que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices
glisse et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ce que la société rejette sous prétexte qu'il n'en peut être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu.
Radio Libertaire 89.4.
Se libère.
Femmes qui prennent la parole.
Femmes qui témoignent.
Femmes qui créent.
Femmes qui se révoltent.
Femmes qui luttent.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes. Parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes. Ensemble, libérons-nous. Le vent.
Ces femmes libres sur Radio Libertaire.
Bonjour à toutes et tous, 17e émission de cette année 2024, émission féministe et anarchiste pour combattre le patriarcat, le capitalisme, les religions, tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne de l'émission Femmes Libres. Radio Libertaire, c'est la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et nous sommes avec Sylvie à la régie. Bonsoir Sylvie.
Et avec Hélène à l'animation. Bonsoir Hélène.
Et en compagnie de Sandrine Malika. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir tout le monde.
Et de Marie-Claire Calmus.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir. L'émission c'est tous les mercredis entre 18h30 et 20h30. Et pour nous suivre, émission Trait d'Union Femmes Libres. blogspot.com. On peut ainsi réécouter les émissions et avoir le programme, mais on peut aussi nous suivre sur Facebook et Miss Cloud. le programme de ce soir, Féminicide par compagnon ou ex, un opus poétique avec une anthologie, Grâce, la grâce, donc, dans le cadre du Printemps des Poètes 2024, puisque c'était le thème du printemps. Marie-Claire Calmu nous présentera son volume 9 des Chroniques de la Flèche d'Or, paru chez Edith Inter en 2024, et nous terminerons par des informations, des communiqués et des rendez-vous. Eh bien, vous avez le programme, nous démarrons par Féminicide, par compagnon ou ex.
Encore un drame de la séparation. À Metz, un gendarme a tué sa femme avant de se suicider.
Une mère de famille battue à mort à Montpellier. Selon les voisins, elle était prisonnière
de Tunisie. Une marche est organisée pour une adolescente de 13 ans brûlée vive par son père.
Le jeune homme avait tué sa petite amie par jalousie.
Une nouvelle série de viols et de meurtres sordides de femmes en Inde et au Pakistan.
Du nouveau dans l'affaire Pistorius, le champion a été reconnu coupable d'homicide involontaire.
Une femme enceinte et ses deux enfants ont été retrouvés égorgés dans le Val-de-Marne.
Drame familial à Groix, un homme mis en accusation pour l'assassinat de...
Le corps d'une Allemande vient d'être
ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des accidents. Mettons un terme à ces crimes machistes. Reconnaissons le féminicide.
Féminicide par compagnon ou ex, 35, c'est le chiffre recensé dans les médias, sur Internet, des féminicides par compagnon ou ex-compagnon en France depuis le début de l'année 2024, et c'est un chiffre à minima. À partir du 1er janvier 2016, des militantes féministes anonymes du collectif Féminicide par compagnon ou ex recensent les femmes victimes de ces crimes conjugaux en France métropolitaine, mais aussi dans les dom-tom. Le collectif s'attache également à décrypter les mécanismes de ces crimes systémiques et du patriarcat. Alors avant de parler de la